Hébreux, chapitre 12, versets 18 à 24. Hébreux, chapitre 12, versets 18 à 24. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toujours toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration « Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. » Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alors j'ai intitulé le sermon d'aujourd'hui « Vous devez choisir telle approche, telle destinée ». Autrement dit, le thème du passage d'aujourd'hui, c'est que les Hébreux, depuis qu'on a commencé notre étude, ont été avertis par l'auteur que c'était vraiment dangereux pour eux de retourner dans le judaïsme. Ils étaient tentés de le faire à cause de la pression sociale qu'il y avait autour d'eux. Et eux avaient connu Jésus-Christ, mais à cause de la pression, ils avaient besoin d'être encouragés à faire le bon choix. Parce qu'une tentation de retourner dans le judaïsme, ça avait des conséquences extrêmement graves. C'est ce qu'on va voir ce matin quand on dit telle approche, telle destinée. C'est qu'on a tous le choix de vouloir s'approcher de Dieu, soit par la loi, ou le décalogue, ou les 10 commandements. Autrement dit, en croyant qu'on a la capacité d'obéir assez à la loi pour satisfaire Dieu, ou en se fiant sur l'Évangile de Jésus-Christ qui, lui, a tout fait à notre place. Alors, c'est ça qui est en train d'essayer de les convaincre. Ne vous trompez pas d'approche. Et là, l'approche, ici, quand on lit dans le texte, c'est vraiment, par le contexte, on voit que c'est la description de quand Dieu a donné au peuple d'Israël la loi, le décalogue. Tout ce qui parle, là, dans le verset 18, là, et embrasé par le feu des ténèbres, et que Moïse était... Imaginez-vous, Moïse était le médiateur. Moïse était un homme d'une grande sainteté. Et quand il a été témoin de ce qui s'est produit lorsque le décalogue a été donné, il était dans l'épouvante. Vous savez ce que c'est l'épouvante, hein? C'est une peur épouvantable. Et tout tremblant. Ça veut dire qu'il en tremblait. Alors, la loi... Il faut comprendre son rôle, il faut comprendre pourquoi elle a été donnée, et faut comprendre aussi que nous, on n'est pas capable de l'accomplir, ni dans sa punition, ni dans ses préceptes, on va voir ça un petit peu plus tard, et qu'on se doit d'avoir la foi au vrai médiateur, soit en Jésus-Christ. Alors, c'est ça qu'il est en train d'essayer de développer avec eux. Là, on voit qu'ils étaient souffrants. Ils étaient dans une période de persécution, ils étaient haïs par leurs confrères juifs, et on a vu que depuis quelques semaines, le chapitre 11 nous donne toute une série, il veut les encourager, leur montrer que peu importe dans quelle époque les Juifs ont traversé, ceux qui avaient véritablement la foi, ceux qui étaient des modèles de foi, ont traversé et ont toujours été victorieux. Alors, après avoir donné les exemples et les modèles de la foi victorieuse du chapitre 11, les croyants juifs qui sont issus du judaïsme sont encouragés à poursuivre leur route et à persévérer dans la foi dans trois ressources divines. Alors, vraiment, l'idée, c'est de persévérer, hein? Ils regardent toutes les choses du passé, ils regardent leurs conditions actuelles, et là, ils ont le choix où ils abandonnent ou ils continuent. Alors, l'idée de persévérance, c'est ça. Alors, les trois ressources divines, c'est, dans le chapitre 12, versets 1 à 4, c'est celle de l'exemple de Christ. On a vu dans les semaines précédentes qu'il présente aux Hébreux le modèle parfait, soit Jésus-Christ. Si on va dans les Évangiles et on regarde de quelle façon Christ a réagi lorsqu'on se moquait de lui, lorsqu'on lui faisait du mal, il nous dit « Soyez comme votre grand modèle, le Christ ». Ensuite, il nous parle, dans le début du chapitre 12 et versets 5 à 13, il nous parle d'une autre ressource divine, celle de la prise de conscience que Dieu, à cause du fait qu'il nous aime, il nous châtie. Et c'est une preuve d'amour. Quand nous, on a des enfants, on ne les laisse pas faire n'importe quoi, on les corrige à mesure de leur éducation. Pourquoi aujourd'hui on agit de telle façon? Parce que nos parents et tout le système éducatif et parfois l'influence de la Bible nous fait en sorte qu'on change de comportement. Alors, il veut qu'on aille puiser la force de persévérer dans la foi, dans le fait que Dieu, se rappeler que Dieu nous châtie. Et c'est par amour pour nous qu'il le fait. Et aussi, on avait vu dans le chapitre 12, versets 14 à 17, c'était celle de la semaine passée, il voulait nous rappeler qu'on avait une autre ressource, qui était celle de la grâce. Dieu nous a donné énormément de moyens de grâce, qu'il appelle, et ils sont tous là, ils sont tous à notre disposition, c'est comme si c'était un trésor que Dieu nous laisse, mais bien entendu, on n'en profitera pas si on ne les utilise pas. Les moyens de grâce sont là, mais si on ne les utilise pas, on n'en profitera pas. Et il parlait aussi, la semaine dernière, dans le sermon de la semaine dernière, le grand danger de l'apostasie. L'apostasie, ça veut dire tout simplement abandonner la foi en Jésus-Christ pour retourner dans l'ancien système du judaïsme. Et il nous présentait l'exemple d'Ésaü qui, pour un plat de lentilles, avait vendu son droit d'aînesse, et on avait vu toute la semaine dernière qu'est-ce que ça représentait. Donc, Ésaü, c'était comme il nous présente un modèle de personne qui était un apostat. Alors, il continue maintenant son raisonnement. Ici, j'aimerais ça qu'on arrête un peu parce qu'on voit, il y a quelque chose qu'il faut qu'on voit. Un des derniers arguments avant de présenter le cinquième avertissement du livre des Hébreux. On avait parlé au début, ceux qui étaient ici, on avait donné un plan, et on avait vu que dans le livre des Hébreux, à des endroits précis, dans l'Épître, il y avait des avertissements divins. Et tous les avertissements divins qui étaient donnés avaient tous un rapport avec la relation qu'on a avec la parole de Dieu. Et on va voir qu'il y en a quatre qui sont passés, et le passage qu'on est en train d'étudier est immédiatement avant le cinquième. Pourquoi il est placé là, avant le cinquième? Il y a une raison bien particulière. Alors, on se rappelle que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a placé cinq sévères avertissements des endroits stratégiques du livre. Alors, tous ont un rapport avec les Saintes Écritures. Le premier danger qu'on trouvait dans Hébreux 2, versets 1 à 4, c'était le danger de ne pas s'attacher à la parole de Dieu. S'il y a une chose auquel nous, aujourd'hui, comme chrétiens, on se doit de s'attacher, plus que jamais, je dirais, c'est de s'attacher aux Saintes Écritures. Parce que c'est elles qui nous conduisent. Alors, le premier danger, c'est de ne pas s'attacher. Et on voit aussi qu'il y a un ordre croissant dans le danger. Si tu ne t'attaches pas, il va y avoir une conséquence. Le deuxième danger, c'était le danger de ne pas les croire. On pourrait s'attacher aux Écritures, les avoir toujours avec nous, et de ne pas croire ce qu'ils nous disent. Et ça, c'est un deuxième danger grave. L'incrédulité. Premier danger, le détachement. Deuxième danger, l'incrédulité. Est exprimé dans le chapitre 3, versets 12 à 14. Le troisième danger, c'était le danger de ne pas les étudier. C'est quoi le problème quand on ne les étudie pas? La paresse. Il est exprimé dans le passage allant du chapitre 5, du verset 11 jusqu'au chapitre 6, verset 12. Donc, cet avertissement-là, il est donné entre 5, 11 et 6, 12. Le danger de ne pas étudier. Pourquoi on dit que c'est un danger? Parce qu'il était rendu à un point où l'apôtre leur dit « Vous devriez être des docteurs, compte tenu du temps que vous êtes dans le Seigneur, et vous êtes des bébés. » Pourquoi sont des bébés? parce qu'ils ne connaissent pas leurs Écritures. Et c'est ça qu'il leur dit comme troisième danger. Le quatrième, c'était le danger de ne pas obéir, l'ignorance volontaire. Alors, si on sait quelque chose, les Écritures nous commandent quelque chose, un certain comportement, et qu'on dit « Ah, ben, c'est pas grave, moi, m'en faire à ma tête. » Donc, c'est de l'ignorance, mais qui est volontaire. J'ignore ce que les Écritures me disent et je le fais volontairement. Très grave danger. Alors, il est exprimé au chapitre 10, du verset 26 à 31. Alors, si on étudierait les cinq dangers, juste ce thème-là dans l'Épître aux Hébreux, on verrait qu'il les place toujours après avoir développé une idée en particulier. Donc, pas s'attacher, pas croire, pas étudier, l'ignorance volontaire. Et là, il se prépare à nous emmener le cinquième. Pourquoi l'étude d'aujourd'hui précède le cinquième? Parce qu'il y a une croissance dans le danger. Alors, le passage que nous allons étudier aujourd'hui précède immédiatement le cinquième et dernier avertissement, et qui est le danger de ne pas les écouter. Le refus d'entendre. Autrement dit, depuis le début, qui essaye de rentrer des choses dans la tête aux Hébreux, il y a eu un développement dans tout ça. Et là, il est en train de leur dire... Vous avez le choix d'approcher Dieu, soit par la loi, en pensant que vous êtes capable de l'obéir, ou vous avez le choix d'approcher Dieu par l'Évangile, par la foi en Jésus-Christ. On va voir, on va développer ça tantôt. Alors, il nous faut remarquer, alors c'est le refus d'entendre. Si, disons qu'on donne des arguments à quelqu'un, qu'on veut le convaincre de quelque chose, on commence, premier avertissement. On continue, on donne deuxième avertissement, enfin deux fois je t'avertis, là. Trois fois, quatre fois, au bout de la cinquième fois, là, c'était comme... Il est trop tard. Si tu choisis la mauvaise approche pour ton salut, ça a une conséquence sur ta destinée éternelle. C'est en plein le sujet qu'on est en train... Alors, le refus d'entendre, il est en train de préparer le chemin à leur dire « Bouchez-vous pas les deux oreilles volontairement, parce que ça va avoir une grave conséquence sur votre destinée éternelle. » Alors, la gravité des avertissements augmente constamment. Il y en a cinq placés en des endroits stratégiques. Et le comportement des auditeurs et des lecteurs de l'Épître doivent impérativement s'ajuster. Disons que je vous dis, en sortant, dehors, il y a un gros trou de 15 pieds par 15 pieds, puis il y a 12 pieds de profond, puis dans le fond, il y a des pics. Puis je vous le dis, là, puis je vous répète ça quatre fois durant le culte. Au bout du culte, vous sortez comme si rien n'était, comme si vous n'avez pas averti. Mais c'était un peu ça l'idée, là. Il est averti d'un grand danger et ils se doivent de s'ajuster en fonction des avertissements qu'ils ont reçus. Alors ici, ce n'est pas un danger, le dernier avertissement, ce n'est pas un danger petit. Choisis véritablement l'approche par laquelle tu veux te réconcilier avec Dieu, parce que si tu fais le mauvais choix, c'est ta destinée éternelle qui en dépend. Alors aujourd'hui, le passage qu'on étudie nous présente les deux approches possibles pour rencontrer notre Dieu. Celle de la loi, et là j'aimerais ça qu'on s'arrête un peu à réfléchir, c'est quoi le sens de la loi? Le contexte nous montre que c'est clair qu'ici l'auteur parle du décalogue, les 10 commandements. On appelle ça soit la loi morale, soit les 10 commandements, ou soit le décalogue. En général, ou les 10 paroles. Mais nous, dans notre culture à nous, on est habitué avec l'expression les 10 commandements. Quand Dieu a donné les 10 commandements, il s'est produit des choses et il est en train de leur dire, faites attention quelle approche que vous allez choisir pour vous présenter devant Dieu. Alors, on a vraiment deux approches ici qui sont présentées dans le passage de 18 à 24. La loi, le décalogue ou la grâce. Autrement dit, il est en train de dire « pluguez-vous » en québécois. Alors, il y a ici une obligation absolue de choix. Il y a des fois dans la vie, on peut rester en deux eaux. Autrement dit, on aimerait ça demeurer neutre. Oh, ben là, on ne me mouille pas, je ne choisis pas ni d'un bord ni de l'autre. Quand il est question de notre destinée éternelle, on ne peut pas faire ça. Il faut choisir. Le meilleur exemple pour illustrer ça, ce serait l'apôtre Paul. Paul était un juif, né de juif, pharisien de la secte la plus sévère. Paul avait la prétention qu'il avait obéi à la loi depuis sa jeunesse, puis que pour lui, il pensait que s'il mourait là, il pouvait comparaître devant Dieu et recevoir la bénédiction de Dieu et l'accueil de Dieu. Quand l'Évangile lui a été présenté, il s'est rendu compte que tout ce que je pensais avant, c'était des ordures. Autrement dit, ma pensée était tout croche, elle n'était pas sur Jésus-Christ. Maintenant que je vois que le salut ne peut s'obtenir qu'en Jésus-Christ, un fou d'une poche, je vais penser que je vais pouvoir accomplir la loi. Aucun être humain d'aucune époque ne peut gagner son ciel en obéissant aux commandements. D'abord, les commandements, il faut prendre compte qu'ils ont vraiment deux aspects. L'aspect punitif et l'aspect précepte. Ça, il faut garder ça à l'esprit continuellement. Dieu, dans la punition, il nous dit que qui que ce soit dans des êtres humains qui n'a pas obéi parfaitement, ça veut dire jamais avoir eu aucun manquement, ni dans tes pensées, et si on examine nos pensées, des fois ils partent dans toutes sortes de directions que je voudrais pas que ça soit présenté sur un mur, surtout pas devant Dieu lui-même, parce que là, je voudrais être rentré en dessous du tapis, s'il y en a un, mais s'il n'y a pas de tapis en dessous du plancher, c'est sûr que ça serait ça. Et les paroles qu'on dit, il faudrait qu'il n'y ait jamais eu une qui soit manquante. Jamais avoir manqué de charité, jamais avoir compté de mensonge, jamais avoir parlé contre autrui, etc., etc., etc. Parole. Action. Jamais avoir fait une action qui va à l'encontre des 10 commandements. Jamais avoir eu un péché d'omission. Et aujourd'hui, on a la tendance à les oublier, les péchés d'omission. Pourtant, un péché d'omission, c'est un commandement que Dieu nous donne et que nous, on ne répond pas à son commandement. On désobéit en ne le faisant pas. C'est ce qui a fait la différence entre les péchés de commission, on commet un péché, ou on omet d'obéir à Dieu qui nous commande quelque chose. Et Dieu nous dit dans les Écritures qu'il y a même un degré, une autre sorte de péché qui est dans notre vie qu'on a. Il y a des péchés qu'on appelle secrets, inconnus. Ils sont inconnus de nous-mêmes, on les fait, on s'en rend même pas compte. Dieu dit que toutes ces formes de péchés-là, n'avoir un qu'un, une mauvaise pensée, une mauvaise parole, une mauvaise action, une omission ou une faute secrète, nous méritait d'être plongés vivants dans le lac de feu pour l'éternité. Ça, c'est des exigences pas ordinaires. Alors, il nous dit, par l'Évangile, que Jésus-Christ, lui, a accepté de subir le châtiment qui aurait dû être le nôtre à notre place. Disons que Christ avait juste payé nos péchés, dans le sens qu'il aurait pris notre punition à notre place, est-ce qu'on aurait pu rentrer au ciel? Non, parce que Dieu exigeait la parfaite obéissance à la loi. Donc, tout ce qui est commandé dans les 10 commandements, il fallait qu'on l'ait obéi à la perfection. Et qui a fait ça? Personne. Alors, c'était vraiment de comprendre que je ne peux pas porter la punition parce que l'éternité elle-même n'aurait pas suffi pour que Dieu punisse sur moi les péchés que j'ai commis. Imaginez-vous, j'aurais resté dans l'enfer éternellement, puis ça n'aurait pas suffi pour payer mes péchés. C'est beaucoup, là. Et en plus, il demandait une obéissance parfaite, ce qu'aucun être humain n'a jamais fait. Alors, il fallait que tout notre salut soit basé sur la substitution. Christ est le substitut des croyants. Il a accompli la loi à notre place, en ce sens, en prenant la punition qui était la nôtre, et il a aussi accompli la loi en ce sens qu'il a accompli parfaitement la loi. Quand Jésus est venu sur la terre, il n'a jamais manqué d'obéir au décalogue, ni en pensée, ni en parole, ni en action, ni en omission, il n'a jamais fait de faute secrète. Toute sa vie était parfaite. Et les Écritures nous disent que si on croit en lui, c'est ça qui est imputé sur notre compte. Alors là, ils ont le choix. On va présenter la sévérité de la loi, sa rigueur, sa profondeur, ses exigences qui sont presque inimaginables. Et là, il va leur dire, « C'est-tu ça que tu veux faire? Penser que tu es capable de faire ça? Ou bien non, si tu veux continuer, peu importe le coût. Parce que les coûts de souffrance qu'on va avoir sur la terre, Si on les compare aux souffrances qu'on aurait si on s'en va en enfer, ici, le plus qu'ils peuvent durer, pour les plus vigoureux d'entre nous, c'est 80-85 années. Mais imaginez-vous, l'enfer, c'est long, pas mal plus que 85 années. Alors, peu importe le degré de souffrance que Dieu permet qu'on vive dans nos vies, c'est bien petit comparativement à ce qu'il nous aurait fait vivre dans l'enfer s'il ne nous avait pas sauvés en Jésus-Christ. Alors, on va commencer à regarder l'approche de Dieu par la loi qu'on voit dans les versets 18 à 21. Alors, quand on regarde le contexte des versets 18 à 21, on voit de façon très claire qu'ici, on parle de la loi, dont la loi qui est le décalogue ou les 10 commandements de Dieu. C'est l'ancienne alliance de Dieu donnée au peuple d'Israël au mont Sinaï dans le désert. On relit le passage. « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. » Imaginez-vous, ils ont entendu la voix de Dieu, puis un moment donné, ils ont dit, « Oh, on veut plus l'entendre, on n'est plus capable. » C'était trop puissant pour eux. Ils ne voulaient plus l'entendre. Car ils ne supportaient pas cette déclaration, si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tout tremble. » Alors, les Hébreux doivent être confrontés aux rigueurs et aux exigences impitoyables et extrêmement sévères du décalogue. Et là, ce n'est pas une invention qu'on dit, ce n'est pas un tricotage théologique qu'on est en train de faire. On va aller dans Galates, chapitre 3, versets 10 à 14. Qu'est-ce que ça nous dit dans Galates 3, versets 10 à 14? « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi... » La loi, ici, dans le sens, c'est le décalogue. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, autrement dit, si vous pensez que vous êtes capable de gagner votre ciel en obéissant au décalogue, ça dit ici, vous êtes sous la malédiction. Ça veut dire, vous en allez directement en enfer. Car il est écrit, « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne la met pas en pratique. » Maudit dans les Écritures, c'est la malédiction, c'est l'enfer. Il nous dit que si on essaye d'obéir aux œuvres de la loi, il nous dit « Maudit est quiconque n'observe pas tout. » Quand je vous disais tantôt, il fallait que tu aies observé une parfaite obéissance. « Tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, autrement dit le décalogue, et ne la met pas en pratique. » C'est une grosse exigence. Il dit ici « Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. » Et regardez bien le verset 13. « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Qui était pendu au bois? Jésus. Est-ce que Jésus avait fait un péché dans sa vie? Non. À quelque part, il payait pour le péché de qui? Les nôtres. Ils payaient pour les péchés des élus. Et après ça, ça dit dans le verset 14, « Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Voyez-vous, il est en train de nous faire un sévère avertissement que dans l'Épître aux Galates, c'est encore la même affaire. L'Épître aux Galates, c'est encore les Juifs qui étaient tentés de retourner dans le judaïsme. Ils voulaient retourner encore à l'obéissance à la loi. Pour apprécier toute l'argumentation, nous devons revoir les passages de l'Ancien Testament où le peuple d'Israël reçoit la loi ou le décalogue ou les 10 commandements de Dieu. Nous avons la description détaillée des exigences de Dieu envers son peuple. On va aller dans Exode 19. Et on va lire les versets 10 à 25. Exode 19, versets 10 à 25. Ici, c'est le passage qui précède là où Dieu va... Parce qu'on sait que c'est dans Exode 20 que Dieu donne sa loi. Et l'Éternel dit à Moïse, Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, « Soyez prêts dans trois jours, ne vous approchez d'aucune femme. » Le troisième jour au matin, il y eut... Et si, il faut vraiment s'arrêter, hein? Parce que des fois, on lit ça rapidement. Il y eut des tonnerres. S'il y a quelque chose qui nous fait peur, en général, les êtres humains, le tonnerre. Même, je ne considère pas que je suis un peu heureux du tonnerre, mais je n'ai connu des gens qui, dès qu'ils entendent un tonnerre, c'est la panique. J'ai connu des gens comme ça. Le tonnerre, quand il sonne fort, là, des fois, ça sonne tellement fort que ça nous fait presque mal aux oreilles. Quand il y a eu la loi, il y avait des tonnerres et il y avait des éclairs aussi. Et une épaisse nuée sur la montagne, le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Imaginez-vous une montagne en feu qui tremble, que vous entendez un son de trompette allant de croissant en croissant, que vous entendez la voix de Dieu, vous entendez des sons de tonnerre épouvantables, vous entendez des éclairs. À quelque part, non seulement le peuple était dans l'épouvante, mais Moïse lui-même était dans l'épouvante. Verset 17, Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Je ne sais pas si vous, jamais on vivrait une pareille expérience. On est au pied d'une montagne puis la montagne se met à trembler. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, un tremblement de terre. Moi, je n'ai vécu un ou deux légers. Mais quand on voit ceux de, par exemple, du Japon, là, où que le plancher fait ça, puis tout tombe à terre, là, ben ici, là, c'est un genre de scène comme ça, avec la lumière. Et c'était pour présenter la loi. Dieu a voulu que ça soit spectaculaire. Il a voulu que sa colère soit démontrée envers ceux qui n'obéiraient pas parfaitement à sa loi. Verset 19, le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Puis disons, en plus, vous entendriez un son de trompette, puis la trompette deviendrait de plus en plus forte. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendu sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, « Descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'eux ne périssent, que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. » Moïse dit à l'Éternel, « Le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse en disant, « Fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-les. » L'Éternel lui dit, « Va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. » Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Là, si on va un petit peu plus loin, dans Exode 20, versets 18 à 21, là, ça nous dit une petite notion complémentaire. « Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. » Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne parle point de peur que nous mourions. » Imaginez-vous, la voix de Dieu leur parlait avec une telle intensité qu'ils ont dit, « Parle-nous toi, mais permets que Dieu ne parle plus, on n'est plus capable. » T'as trop fort. C'est quelque chose qui dépassait leur capacité. Verset 20, « Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. » Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. On va aller dans un autre passage où on parle un peu de la même histoire. Deutéronome chapitre 4, versets 10 à 24. Alors ici, on a Dieu qui va donner ses commandements bientôt. Il dit, « Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, « Assemble auprès de moi le peuple. Je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. » Vous vous approchâtes et vous vous tintes au pied de la montagne. La montagne était embrasée et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Voyez-vous, tout à l'heure, on ne l'avait pas cette information-là. Imaginez-vous une montagne qui tremble et que les flammes montent jusqu'au milieu du ciel, jusqu'à quel point ça devait être effrayant. Et ça dit, il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. Là, il y a des gens, les libéraux, ils disent, comment pouvait-il y avoir du feu et qu'il y ait des ténèbres en même temps? C'est complètement de la folie furieuse. Quand Dieu souvent, l'image du feu est utilisée dans les Écritures pour parler du jugement. Alors, il peut y avoir c'est un peu comme ceux qui disent que l'enfer n'existe pas parce que ça dit que c'est dans les ténèbres et ça dit qu'il y a du feu. Les gens disent, ben, le feu est clair, donc, ça se peut pas que ça soit dans les ténèbres dans l'enfer. C'est des raisonnements complètement, ignorants. Et verset 12. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point des figures. Vous n'entendîtes qu'une voix. Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer les 10 commandements et il les écrivit sur 2 tables de pierre. Voyez-vous ici, qu'est-ce qui est mentionné, c'est que Dieu, non seulement il donne les 10 commandements, mais il les écrit lui-même avec son doigt, qui est une image pour nous parler que la loi, ça demeurait en vigueur. Toujours. Même après notre salut, la loi a encore un rôle à jouer, plus de nous montrer la grâce de Dieu, plus pour nous montrer différentes choses que d'essayer de l'observer à la perfection. Et verset 14, en ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vivent dans les eaux au-dessus de la terre. Voyez-vous, ce sont toutes des formes d'idolâtrie que le peuple d'Israël ou les hommes ont utilisées au cours du temps, de prendre des animaux et d'en faire des yeux. Et il dit, moi je vous donne la loi pour pas que vous fassiez ça. Il dit, veille sur ton âme de peur que levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte afin que vous fussiez un peuple qui lui appartient en propre comme vous l'êtes aujourd'hui. Et l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous et il jura que je ne passerai point le Jourdain et que je n'entrerai point dans le bon pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Je mourrai donc en ce pays-ci, je ne passerai point le Jourdain, mais vous le passerez et vous posséderez ce bon pays. Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous. et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque que l'Éternel ton Dieu t'ait défendu. Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant et un Dieu jaloux. Donc, les nouveaux croyants qui étaient sortis du judaïsme avaient besoin de se faire rappeler certaines choses sur le rôle de la loi. Si Dieu a donné une loi comme ça aux Juifs et aux êtres humains par la suite, puis qu'il savait qu'on n'était pas capable de l'observer, c'est à quoi? Pourquoi qu'il nous l'a donné à ce moment-là? C'est quoi son rôle? Bien, on a la réponse dans Galates, chapitre 3, verset 24. Un pédagogue. Il y en a des pédagogues dans la salle, c'est des professeurs. Un pédagogue, c'est un professeur. Ainsi, ça nous dit dans Galates 3, 25, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. Et vous, pas l'obéissance au commandement. Ça nous a été donné justement pour qu'on se rende compte qu'on n'est pas capable. Ni de subir le châtiment qui y est rattaché, ni d'accomplir les exigences qu'il nous donne. Mais ça nous dit que c'est un pédagogue, donc un professeur qui nous emmène à Christ. Parce qu'on sait que Dieu nous dit, à cause qu'il l'a écrit, que ses exigences demeurent les mêmes. Tout péché se doit d'être puni. Tout péché, tout commandement que Dieu nous a donné se doit d'être respecté. Mais si nous, on n'est pas capable, il faut absolument que ce soit quelqu'un d'autre qui l'ait fait à notre place. C'est ça qui est en train de les amener à réaliser. La loi présente Dieu comme le juge d'une sainteté absolue, juste, sévère, exigeant, inflexible, implacable et qui ne laissera certainement pas le péché impuni. Si tu choisis la loi, tu dis, bon, ben moi, je pense que je vais obéir à ça, les 10 commandements, moi, lire à tous les jours, puis je vais obéir à ça. Ben, tu as besoin de t'atteler parce que si tu as manqué une fois, tu es fait. Elle révèle la loi, elle révèle la misère et la condamnation du pécheur. Alors que le juif qui est nouvellement converti se doit de voir clairement les points suivants concernant le décalogue. Le premier point qu'il a besoin de savoir concernant le décalogue, la perpétuité, la permanence de ses exigences, leur profondeur, son irrévocabilité et son inévitabilité. Autrement dit, si ça dit que si tu as péché une fois, tu vas aller en enfer, même si ce serait un qu'une fois, inévitable, irrévocable, c'est profond, c'est une exigence qu'aucun être humain même est capable presque de concevoir. Ils ont besoin de se rappeler ça. Alors, avant de vouloir retourner à gagner ton salut par la loi, think again, comme les Anglais diraient. C'est la seule communication que Dieu donna directement à son peuple. Si vous regardez dans l'ensemble des Écritures, Dieu a parlé directement une seule fois à son peuple, et c'est lors du décalogue. Directement, je parle. Il a parlé d'autres fois, mais toujours indirectement, soit dans des théophanies, des apparitions sous une forme, mais jamais directement, ça a été la seule fois. Pourquoi il a parlé la seule fois? C'est parce que c'était d'une importance extrême. La loi avait une importance extrême. Autre chose qui se devait de se rappeler, c'est un message qui était donné avec une voix si terrifiante et qu'il l'écrivit plus tard sur des tables de pierre. Pourquoi Dieu écrit les 10 commandements sur des tables de pierre? Vous remarquerez que l'ensemble des autres lois, qu'on appelle cérémonielles, ou les lois civiles, que Moïse a données au peuple d'Israël pour qu'ils aient une bonne conduite dans le pays d'Israël, ils n'ont pas écrit sur une table. La seule parole qui est écrite sur une table de pierre, c'est la loi morale, le décalogue des 10 commandements. Autre chose qu'ils ont besoin de se souvenir, c'est qu'absolument aucun être humain n'est capable de la rencontrer à la perfection à cause de sa rigueur. Aussi, ils ont besoin de se souvenir que la loi amène à la douloureuse constatation de notre inhabilité à lui obéir, à nous révéler notre impotence. Autrement dit, il faut en arriver au point que quand tu vois la profondeur des exigences de la loi, tu dis, c'est vrai, Seigneur, je suis pas capable. L'impotence, ça veut dire pas capable. Et, je t'ai rendu où? Excusez-moi. La loi amène à la douloureuse constatation de notre inhabilité à lui obéir, à nous révéler notre impotence et aussi à notre condamnation à l'enfer éternel pour tout manquement à son égard, si petit soit-il. Et on en a fait à tous les niveaux. Pensée, parole, action, omission, faute secrète. Alors, ça a pour but de nous révéler qu'on n'est pas capable. Aussi, dans le verset 18, on voit quelque chose. Alors, on dit toujours du mont Sinaï que c'était comme dans un désert. Dieu a même choisi le cadre. Il n'y avait pas de vie. C'était une grosse montagne, puis autour, il n'y avait pas beaucoup de vie. Il a choisi ce milieu-là pour montrer le côté rigoureux de la loi. Alors, il était interdit de toucher à la montagne de Sinaï sous peine de mort. Elle est embrasée par le feu, elle est obscure, elle est dans les ténèbres et elle est au milieu d'une grande tempête, comme on parle dans le texte. Des éclairs, du tonnerre, un tremblement de terre et la montagne elle-même qui chute. Donc, il veut nous montrer le côté inaccessible de la loi. Autre côté qu'il veut nous montrer, c'est qu'elle est inconcevable dans sa sévérité, verset 19. Il nous dit, ceux qui l'entendirent ne demandèrent plus que leur fût adressée une de plus. Autrement dit, Dieu parlait et ne voulait même plus que Dieu dise un mot de plus parce que c'était trop fort pour leur capacité de l'écouter. Alors, la sévérité est exprimée dans le retentissement croissant du son de la trompette, dans le bruit des paroles, parce qu'on parle de bruit des paroles. Alors, sûrement qu'on parle de la voix de Dieu comme étant une voix terrifiante, une voix pleine de puissance. Alors, quand tu entends des voix comme ça, tu dois trembler, comme on dit. Alors, c'est solennel, c'est des paroles qui ont du poids, c'est des paroles qui sont inflexibles et implacables. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne, du milieu du feu, des nuées de l'obscurité, qu'il adressa à toute l'assemblée sans rien ajouter. Il les écrivit sur deux tables de pierre qu'il me donna. Deutéronome 5, versets 23 et 25. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était toute en feu, vos chefs de tribu et vos anciens s'approchèrent tous de moi et vous dites, voici, l'Éternel, notre Dieu, nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Et maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ce grand feu nous dévorera. Écoutez bien ce qu'ils disent. Ce grand feu nous dévorera si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. C'était tellement intense, là, qu'ils ont dit que si on continue d'entendre la voix de Dieu, on meurt. Mais parfois, on lit les Écritures rapidement, on ne voit pas toujours ces choses-là. C'est important de les voir. Et elle est aussi, dans le verset 20 et 21, elle est insupportable. Son expression est d'une sévérité extrême, d'une rigueur extrême, d'une impitoyabilité extrême. Moïse lui-même était terrifié, tout tremblant. Alors, dans les versets, jusqu'au verset 21, il nous parle de l'approche par la loi. C'est ça que tu cherches à faire, bonhomme ou bonne femme? Alors, il leur présente une autre approche qui est pas mal plus intéressante. L'approche de Dieu par la grâce, on l'a dans le verset 22-24. Les nouveaux croyants juifs avaient été mis en contact avec l'évangile de la grâce par le médiateur Jésus-Christ. Alors là, ils y ramènent. C'est pas que la loi, elle a pas ses exigences encore. Elle les a encore. Mais il faut que tu comprennes que celui que tu veux, tu es en train de vouloir abandonner, c'est lui qui a payé la punition que tu devais recevoir pour chaque manquement à la loi. Et c'est lui qui a accompli à la perfection les exigences que Dieu avait pour chacun des 10 commandements. À tous les niveaux, pensée, parole, action, omission, tout ça. Alors, Hébreux 12, verset 22 à 24, ça nous dit, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. » On va expliquer un petit peu chacune des... Il y a 8 choses qui sont mentionnées là-dedans. Il dit, « Vous ne vous êtes pas... » La première chose, verset 18, « Vous ne vous êtes pas approchés. » Autrement dit, votre approche n'est pas par la loi. Il a commencé par développer ça. Mais après ça, il dit, « Mais vous, vous êtes approchés. » De, et là, il mentionne 8 choses. On va les expliquer un petit peu. Il dit, Hébreux 12, verset 24, « Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion. » Voyez-vous, deux montagnes. La montagne de Sinaï, la montagne de Sion. On va voir les différences, qu'est-ce que ça veut dire tantôt. « De la cité du Dieu vivant. » Une autre expression. « La Jérusalem céleste. » Des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Voyez-vous, il est apporté à vouloir retourner dans l'ancienne et leur dit, vous vous êtes approchés de Jésus, de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. L'auteur de l'Épître cherche ici à convaincre de l'infinie supériorité du christianisme sur le judaïsme. Et je pèse mes mots. L'infinie supériorité du christianisme sur le judaïsme. Quand c'est infiniment supérieur, un fou d'une poche va tomber là-dedans. Alors, pourquoi il avait besoin de les avertir? Ça a été aboli par la venue du Messie Jésus-Christ, le judaïsme. Dans le sens qu'on a vu dans notre étude d'Hébreux que le Seigneur avait aboli l'ancienne alliance, il l'avait remplacée par la nouvelle. Alors, quand il la remplace, obéit, prend la nouvelle. Les nouveaux croyants juifs, comme nous d'ailleurs, doivent faire leur choix. Le choix est obligatoire et inévitable. Si je vous pose la question ce matin, voulez-vous vous approcher de Dieu en croyant que vous êtes capable d'obéir à la loi à la perfection? Ou si vous voulez croire que Jésus a à la fois payé la punition et accompli les préceptes à votre place, j'espère que votre choix est fait et qu'il est rapide, parce qu'on ne fait pas l'erreur. Ou nous nous approchons de Dieu en cherchant à obtenir le salut, en obéissant au décalogue, ou nous nous approchons de Dieu à travers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. C'est le salut par grâce. Autrement dit, retourne-toi pas dans un système d'œuvre. T'as la grâce qui est infiniment supérieure. Plusieurs dimensions de l'évangile de la grâce sont présentées ici. L'incommensurabilité dans les versets 22-23. Et là, il nous parle de ces fameuses 8 choses-là, la montagne de Sion. C'est la montagne sur laquelle est bâtie Jérusalem. Quand on parle, c'est une référence à la Jérusalem céleste. Quand il dit ici, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, c'est sûr, la ville de Jérusalem était bâtie sur une colline qui s'appelait la montagne de Sion. Dieu l'a toujours, parce que sa ville, Jérusalem, était là. Mais ici, on fait plus référence, vous vous êtes approchés de la Sion céleste. Ici, Sion, c'est vraiment la Jérusalem céleste. On voit ça dans le psaume 48, versets 1 et 2. Cantique, psaume des fils de Corée. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion, le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Dans le psaume 50, verset 2, ça dit, de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. On parle de la Jérusalem céleste. Elle est, donc la montagne de Sion, la place de l'habitation de Dieu, le siège de son trône, l'objet de promesses innombrables, le lieu de la conception de l'Évangile, l'objet de l'amour spécial de Dieu et de la naissance de ses élus, la joie de toute la terre, la source des bénédictions. Il est en train de vous dire, vous vous êtes approché de la Jérusalem céleste, qui est le lieu où Dieu habite, le lieu où vous êtes venu au monde. On est-tu venu au monde dans Sion? Les Écritures nous disent, oui, dans la Jérusalem céleste. Alors, on va reprendre des versets qui nous parlent de chacun de ces aspects-là. On a dit que c'était la place de l'habitation de Dieu. Psaume 9, verset 11. « Chantez à l'Éternel qui réside en Sion, publié parmi les peuples ses hauts faits. Donc, psaume 9, verset 11, nous dit que Sion, c'est l'habitation de Dieu. Psaume 2, verset 6 et 7, ça nous dit que c'est le siège de son trône et du royaume de Christ. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Il l'a engendré où? Jésus-Christ. En Sion, en ciel. Psaume 125, verset 1 et 2. Est-ce que Sion est l'objet d'innombrables promesses? Psaume 125, verset 1 et 2. Cantique des degrés. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi, l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. On a dit que c'était le lieu de la conception de l'Évangile. On a toujours dit que le Dieu trinitaire, à un moment donné, a fait une alliance, l'alliance trinitaire, dans laquelle ils ont choisi les élus, que Christ viendrait, paierait, accomplirait la loi à leur place, subirait le châtiment à leur place, et que l'Esprit éventuellement viendrait. C'est une entente, l'entente trinitaire, l'alliance trinitaire. Elle a été conçue où? Dans Sion, le lieu de la conception de l'Évangile. Ésaïe 40, verset 9, « Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. » Et on a dit aussi que c'était l'amour spécial de Dieu et le lieu de naissance des élus. Psaume 87, verset 1 à 3. Les fils de Corée, psaume cantique. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. On a dit aussi tantôt dans la description de la Jérusalem céleste que c'était la joie de toute la terre. Psaume 48, verset 2. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la grande ville, c'est la ville du grand roi. On a dit aussi que c'était la source de toutes les bénédictions. Psaume 14, verset 7. « Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple? Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. » Donc, on vient de voir le premier item, il dit, maintenant, vous vous êtes approché de la Sion céleste, avec tout ce qu'on vient de dire, la place de Dieu, le lieu des... Et il est en train de les emmener à faire leur choix, là. Après ça, il nous parle d'un autre concept, la Jérusalem céleste, la cité du Dieu vivant. Dans Hébreux 11, verset 10, ça nous disait, « Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Il parle de quoi, là? Il parle de la Jérusalem céleste. C'est le lieu de résidence de Dieu et de son peuple, là où il va y avoir de la joie, de l'harmonie, du bonheur, l'absence de mal. Christ est la pierre angulaire et les croyants sont les pierres vivantes de cette Jérusalem céleste-là. Elle offre paix, sécurité et protection. Et après ça, on mentionne une autre affaire, des myriades qui forment le cœur des anges. Myriades, ça veut dire mille. C'est l'assemblée des anges élus en réjouissance et en festivité. Vous vous êtes approchés de ça. Et si on veut savoir une idée du nombre d'anges, je trouve qu'on peut aller lire Daniel chapitre 7, verset 10. C'est assez exceptionnel, on l'oublie ça. Ça nous dit « Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui, de devant Dieu. Mille milliers le servaient. » Mille milliers, ça fait combien? 1 million. « Et 10 000 millions, 10 000 millions, ça fait combien? 10 milliards. 10 milliards se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. » Dans Daniel, ça nous parle de milliards d'anges. Vous vous êtes approchés de l'habitation où il y a actuellement les anges élus, 10 milliards d'anges au-dessus. Puis ils sont en festivité. Alors, tu te l'as l'intention de te retourner sur la loi, alors que ça t'amène juste à trembler, puis... Il dit ensuite de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Ce sont ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, dont les noms sont inscrits dans le ciel et qui composent le corps de Christ. Parce qu'il y en a qui sont déjà là. Donc, vous êtes approchés des anges, mais vous êtes approchés de ceux qui sont déjà là. Dans Luc, chapitre 10, verset 20, « Cependant, il dit, c'est le Seigneur Jésus qui dit à ses apôtres, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Si on est des élus de Dieu, nos noms sont écrits dans les cieux. On s'est approché de ça. Après ça, il nous dit, dans Romains 8, 17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Et après ça, ça nous parle du juge qui est le Dieu de tous. Approcher Dieu par le mont Sinaï, c'est mourir. Approcher Dieu par Sion, c'est vivre. Apocalypse 21, versets 2 et 3. « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Et après ça, il nous dit des justes, les esprits des justes qui sont parvenus à la perfection, ce sont les esprits des justes de l'Ancien Testament. Après ça, dans le verset 24, on nous parle de l'inaltérabilité et l'infaillibilité de ce lieu-là qui leur présente. Il dit, vous vous êtes approchés, et il finit, il va toujours en croissant, vous vous êtes approchés de Jésus. Vous voulez retourner dans la loi? Vous êtes approché de Jésus, qui est le médiateur de la Nouvelle Alliance. Jésus est le médiateur de la Nouvelle Alliance qui s'est passée, une alliance trinitaire, céleste, éternelle, immuable et parfaite. Et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel, le sang de Christ est pur, saint et impeccable. Il ôte le péché, il ne le couvre pas seulement, comme on avait vu dans notre étude. Son effet est durable et permanent. Celui de l'ancienne alliance était temporaire et se devait d'être recommencé à chaque année, comme on se souvient. Éphésiens 1, verset 7. « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » Colossiens 1, verset 18 à 20. « Il est, il parle de Christ, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui, et il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui et par le sang de sa croix. » Quelles sont les applications qu'on va faire du texte aujourd'hui? Prions le Seigneur pour mieux nous faire connaître la rigueur de sa loi, l'aspect punitif et l'aspect préceptif. Éliminons toute pensée blasphématoire de la possibilité de salut par les œuvres de la loi. Deuxième application, implorons le Seigneur de nous révéler la beauté infinie de sa grâce. L'aspect étendu, l'aspect exigence, donc le prix payé par Christ et le coût de devenir disciple. Que l'Éternel soit magnifié pour son amour et sa grâce inénarrable. Amen. Amen.